Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. Et dans cette émission, il y aura beaucoup, beaucoup de Mauro Bolognini, puisque nous évoquerons le coffret Carlotta contenant Les Garçons, Boubou de Montparnasse, Liberté, mon amour et Vertige. On parlera aussi de Black Journal, qui est édité par Rimini, enfin dans une superbe copie d'ailleurs, puisque c'est des années qu'on n'avait que la copie VHS, là on a une version longue et tout. Enfin, c'est vachement bien. On est content de parler de Mauro Bolognini. D'ailleurs, je pense qu'on parlera aussi d'autres films de Bolognini. Voilà, on verra bien. On va discuter sur ce cinéaste qui a longtemps été un cinéaste mis de côté et qui est aujourd'hui réhabilité. On va aussi causer d'un autre grand cinéaste, Billy Wilder, pour La Valse de l'Empereur, qui est là aussi sorti chez Rimini. Et puis, encore et toujours chez Rimini, qui décidément... C'est un éditeur qui a une actualité chargée. On causera des Anges de la Nuit, Les Anges de la Nuit de Phil Johannou, le grand film de Phil Johannou, grand polar, hein, voilà, on y reviendra. Et puis, on débutera cette émission par un film catastrophe, mais pas catastrophique pour autant. Qu'il est drôle ce GG. Le Pont de Cassandra de Georges Panagiotis, qui est paru chez Elephant Film. Merci à Mathilde Gibault, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mes fidèles acolytes, qui ne sont pas anonymes, et bien non, puisque je vais tout de suite vous dire leur prénom, leur nom, ainsi que leurs alias. On va débuter par Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, quoi de plus normal pour un loup-garou, ainsi que pour le site culturopoint.com. Et puis de temps en temps, il nous fait des infidélités sur d'autres radios avec son émission À l'écoute du cinéma. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et salut à toutes.
Eh bien Thomas, écoute, comme tu as pris la parole, je vais te la laisser pour que...
C'est exceptionnel.
Pour que tu nous parles d'un film de Georges Panagiotis, et pas n'importe quel film, puisque c'est vraiment un film légendaire de ce sous-genre qu'est le film catastrophe. Je veux bien sûr parler du Pont de Cassandra.
Oui, le Pont de Cassandra qui est, je pense, une véritable madeleine pour beaucoup de cinéphiles de notre génération, qui a été vu à la télévision, je crois, dans le cadre des dossiers de l'écran, je crois. Hein. Donc c'est un film avec une distribution plutôt éclatante, Burt Lancaster, Richard Harris, Sophia Loren, Martin Sheen et bien d'autres que j'oublie là, comme ça, qui ne me viennent pas forcément en tête. Donc le Pont de Cassandra, c'est un film qui peut un peu parler de la peur de la guerre bactériologique, des avancées en matière de recherche bactériologique. C'est dans un hôpital, il y a deux terroristes qui se pointent, tentent un attentat qui est raté, qui est déjoué par les gardes. Mais l'un d'eux est touché par... ils ont tué l'un des deux, et pendant que l'autre est touché par une étrange substance qui était dans un bocal, qui traînait là, dans un coin, là, qui n'était pas très protégé pour une substance dangereuse. Hein. Et donc, il s'enfuit, et en s'enfuyant, il va à la gare, il prend le premier train venu. Et dans ce train, qui va faire une bonne partie du tour de l'Europe, hein, il y aura évidemment plein de monde. Mais pendant ce temps-là, le terroriste en question développe une sorte de grippe assez, plutôt mortelle. Hein. Et donc, il va infester plusieurs personnes dans ce train. Et pendant ce temps-là, il a été retrouvé par l'armée qui est représentée par Burt Lancaster, qui campe à un général qui a des méthodes assez radicales quand même. Et donc, ils vont traquer le train et éventuellement le mettre sur une voie de garage et l'emmener en Pologne. Et ils vont le faire passer sur le pont de Cassandra. Le pont de Cassandra, c'était un vieux pont sur lequel passaient les trains qui emmenaient les Juifs dans des camps d'extermination. Et bien sûr, film catastrophe des années 70 oblige, il y a évidemment un Juif dans les personnages qu'on peut trouver dans le train et qui se remémore ce fameux pont de Cassandra qui, lui, ne veut pas retourner en Pologne parce que cela lui rappelle, évidemment, les camps d'extermination, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, c'est plutôt un film d'action, film catastrophe, film d'action. C'est un film qui est assez noir, je trouve. Hein. C'est assez violent, c'est assez noir. Je me souviens qu'à l'époque, la fin m'avait marqué parce que la fin est assez violente, est assez glauque. Hein. Et c'est un film, plutôt efficace, bien emballé. Georges Pancosmato, c'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur de films d'action efficace. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on retient du Pont de Cassandra, c'est cette originalité de traiter le film catastrophe par le prisme du danger bactériologique et aussi par le fait que c'est un film d'action très bien emballé, très efficace.
Ouais, puis c'est un peu plus en plus qu'un film catastrophe. Il y a aussi un côté thriller paranoïaque qui est assez sympa dans le film, qui est assez intéressant. Alors moi, je n'aime pas trop les films catastrophes. Il faut avouer que celui-là, moi, je l'aime bien. Bon, je suis comme toi, je trouve que Georges Pancosmato, c'est pas un grand metteur en scène, mais c'est un bon technicien, c'est un bon metteur en scène qui a du savoir-faire. Par exemple, son Rambo 2, c'est lui, par exemple, qui est vraiment bien troussé, malgré un scénario assez inepte quand même, mais qui est bien troussé. Quoi. Cosmato sait réaliser des films, sait y faire. Son fils a un peu pris le relais, il est un peu plus barré, n'est-ce pas, son fils
Ah oui, son fils est plus barré. Hein, voilà. C'est un autre genre de cinéma.
On vous conseille Mandy avec Nicolas Cage, qui a un film autre quand même. Hein, c'est complètement barré, même, on peut le dire. Hein, C'est ce qu'on appelle un OVNI, un objet filmique non identifié. Panos Cosmatos, d'ailleurs, son fils. Hein, le nom se ressemble un peu.
Il y a aussi un truc dans ce film, c'est qu'on a dit que c'est un thriller paranoïaque, c'est aussi un film d'action, un film catastrophe. Mais ce fameux pont de Cassandra, à un moment, il apparaît dans le film. Il apparaît dans la brume, vraiment au petit matin. Et il en fait quelque chose de vraiment mystique, de fantastique. On est vraiment dans une ambiance fantastique. Et le pont va finir par revenir au fur et à mesure que le train s'en approche, que les passagers essayent de stopper le train, malgré que le général, lui, ne veut pas stopper le train. Il veut qu'il aille jusqu'au bout, alors que les malades guérissent petit à petit. Il veut qu'ils aillent dans cet ancien camp de concentration. Et au fur et à mesure que le train se rapproche du pont, la caméra se rapproche de plus en plus de ce pont qui est complètement délabré, en fait. Bon, et Cassandra, c'était dans la mythologie grecque une personne qui était un oracle qui racontait généralement des choses pas très heureuses qu'elle est arrivée, quoi. Et donc, évidemment, là, on sait que ça va mal finir. Quand on voit l'état du pont, et il y a ce personnage de vieux juif qui a vécu la guerre, les camps, qui dit « Moi, je veux pas retourner là-bas. Le pont est en mauvais état, etc. » Mais au départ, personne ne l'écoute, mais finalement, les gens finissent par dire « On va peut-être pas aller jusque-là quand même, hein, vu que tout le monde se guérit, etc. » Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui est quand même intéressant parce que par ce mélange des genres, c'est ce qu'il fait de ce fameux pont qui est une menace et qui le rend un petit peu fantastique. Mais chez Cosmatos, il aime bien mettre des petites touches diffuses de fantastique dans certains de ses films. Je pense à Cobra, notamment, qui est entre le film d'action et le film d'horreur. Il a fait quelque chose de mystique de son tueur.
C'est un esthète. Hein. Il y a, dans l'utilisation de la photographie, dans l'utilisation des couleurs, Cosmatos, c'est un esthète. Alors, il a souvent illustré des scénarios. Je pense qu'il illustrait tous les scénarios qu'on lui proposait, en fait, sans manifester spécialement de volonté autorisante. Mais dans la forme, il était vraiment... Moi, je retiens toujours... Il y a toujours quelque chose dans les films de George Pan Cosmatos, même dans des films très mineurs comme Léviathan, par exemple. Il y a une patte Cosmatos, quoi. Et vraiment, il y a quelque chose. Puis c'est pas un mauvais directeur d'acteur. Bon, là, il a quand même Burt Lancaster, Richard Harris, c'est du velours, quoi. Enfin, moi, j'adore Burt Lancaster, comme Gregory Peck, voilà, c'est partie des acteurs que je trouve juste extraordinaire. Enfin, tu mets Burt Lancaster dans le coin de l'image, même s'il dit rien, tu t'en fous, quoi. C'est juste extraordinaire, quoi. Il est là et les autres n'existent plus. Richard Harris, c'est pas mal non plus, quoi. Franchement, c'est vraiment des acteurs bigger than life. C'est-à-dire, c'est des vrais stars, quoi. C'est des acteurs, comme on n'en fait plus. C'est pas pour faire le vieux con, mais ça existe plus beaucoup quand même, les acteurs comme ça. Et des Coburn et tout ça. Enfin bon, des acteurs extraordinaires. Et donc, qui sont autant des physiques. Des très bons acteurs. Et donc, effectivement, le film, en plus, a un petit côté complotiste et tout. Enfin, c'est vraiment... Alors, tu vois, plus on en parle, plus je le réévalue. Pour la petite histoire, c'est le pont est de la Belle Ouvrage, c'est un pont de Gustave Eiffel, c'est un pont français, le pont de Garabit qui a été utilisé pour le tournage. Alors, qui, effectivement, dans le film, semble un peu brinque-ballant. Écoutez Culture Prohibée. Est-ce que j'oserais dire que Billy Wilder a fait au moins un film brinque-ballant dans sa carrière ? Non, je n'oserais pas, parce que c'est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Là, il est encore servi comme il se doit par une superbe édition concoctée par Rimini, avec un très beau livret écrit par Marc Toulec. Là, ce qui est distribué par Rimini, c'est La Valse de l'Empereur, un film de 1948 avec Bing Crosby et Joan Fontaine. Alors, en disant La Valse de l'Empereur, tout de suite, vous pensez à Johann Strauss Junior, hein, voilà, ce qui a composé La Valse de l'Empereur. Vous n'avez pas tort, en fait, puisque c'est ce qu'on va retrouver dans le film. Et La Valse de l'Empereur, c'est un film musical, en fait, de Billy Wilder. Et je dois bien avouer que, en plus c'est dans une période de Billy Wilder très intéressante, que c'est quand même pour moi, même si je vais pas mettre des cinéphiles ados, même si dans les bonus c'est pas vraiment ce qui est dit, moi je trouve quand même que c'est un film mineur, quoi, de Billy Wilder, et je le pense et je le dis car je n'ai pas peur. Je suis un dingue. Donc, et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un voyageur de commerce s'appelle Virgil Smith, accompagné de son chien Buttons, qui est un bâtard, hein, qui vient vendre des phonographes à la cour de l'empereur d'Autriche, François-Joseph. Parallèlement, la comtesse Johanna von Sulzenberg est sollicitée par l'empereur afin que son caniche royal Scheherazade s'accouple avec un des mâles de son chenil. Alors qu'elle sort de l'entrevue, Scheherazade est attaqué par Button, lequel se fait mordre à la patte. Smith poursuit la comtesse afin d'exiger des excuses qui lui seront refusées. Et évidemment, Smith suit la cour jusqu'au Tyrol, où a lieu un nouvel incident entre les deux chiens. Scheherazade devient neurasthénique. Et la seule condition pour la guérir est de mettre de nouveau les deux chiens en présence afin qu'ils se réconcilient. La réconciliation fonctionne mieux que prévu, puisque les deux chiens deviennent amoureux l'un de l'autre. Et les propriétaires des deux chiens également. Voilà. Donc, on est loin, effectivement, des films les plus noirs de Billy Wilder. Je pense à Assurance sur la mort, par exemple. Ou même des films très sombres, comme La Scandaleuse de Berlin, qui va tourner à peu près à la même époque. Enfin, Billy Wilder, quand même, c'est une époque très dure pour lui, parce qu'il revient en Europe pour découvrir que une grande partie de sa famille a été déportée, voilà, enfin c'est une période très compliquée. Étonnamment, au milieu de toute cette période, il signe ce film plus léger, très différent du reste de sa filmographie. Et il y a un élément pour moi qui est propre à Billy Wilder quand même, c'est qu'à un moment, comment dire, les pérégrinations des deux chiens, leur relation, hein, c'est en fait une sorte de métaphore du désir sexuel qui anime en fait les deux adultes, le couple adulte. Et ça, c'est très trivial et c'est très Wilder. Il y a toujours un petit côté trivial dans son cinéma qui va exploser, hein, de toute façon, avec certains films dont on a déjà parlé dans l'émission, certaines comédies, comme par exemple dans Embrasse-moi idiot, enfin bon, tout ce genre de films un peu plus osés, on va dire, de Billy Wilder. On connaît surtout pour La Garçonnière, par exemple, enfin, c'est une œuvre très très riche, Billy Wilder. Et disons que ça reste quand même pour moi un film mineur dans sa carrière. Le film est bien mis en scène, réussi, sauf les moments musicaux. Ce qui est quand même embêtant parce que c'est un film musical, quoi. Donc, du coup, on sent bien que Billy Wilder n'est pas passionné par la mise en scène de ces moments musicaux. Lui qui est quand même un virtuose, hein. Et là, on sent bien que ça le passionne pas tant que ça. Par contre, au niveau de l'humour, on retrouve bien cet humour très propre au cinéma de Billy Wilder. Un humour parfois trivial, mais aussi d'une grande finesse, et où fond et forme ne font qu'un, ce qui devrait être le cas pour tous les grands films, et où la mise en scène est au service du gag, le gag est au service de la mise en scène, enfin voilà, tout ce que sait faire Billy Wilder habituellement. Là, ça, il ne l'a pas perdu, il sait toujours le faire, mais disons que le scénario est plus faible, et le scénario donne plutôt l'impression d'assister à une sorte de remake musical de Sissi Impératrice, voilà, et donc, du coup, vous comprendrez bien que je ne sois pas totalement persuadé par ce petit Billy Wilder.
Le tout est de savoir si Rimini va oser éditer Buddy Buddy, son dernier film, un remake de L'Emmerdeur qui, paraît-il, est très mauvais.
Ce Rimini, c'est vrai que depuis quelques temps, ils ont une politique, enfin depuis quelques années maintenant, de sortir vraiment un maximum de films de Billy Wilder. On les comprend, on les remercie d'ailleurs, parce qu'on a pu voir plein de grands classiques. Et ce film, c'est vrai qu'il est un peu moins bon que les précédents édités. Par contre, il est édité avec le même soin, la même qualité. Et puis, quand on aime Billy Wilder, évidemment, ce film, il faut qu'on l'ait dans sa BR-Tech, DVD-Tech, je ne sais pas comment on dit, mais enfin bon, bref, il faut qu'on l'ait dans sa collection. Écoutez Culture Prohibée, spécial sortie Blu-ray et DVD. Autre film édité par Rimini, un classique oublié, certainement le meilleur film de Phil Johannou, un film qui s'appelle State of Grace, mais qui en français s'appelle Les Anges de la Nuit. Bon, après tout, pourquoi pas. Un film avec toute une génération montante d'acteurs, puisque c'est un film qui date de 1990, et donc on a Sean Penn, Gary Oldman, son premier rôle aux États-Unis, Robin Wright, John Turturro. Alors dans les acteurs un peu plus connus, il y a Ed Harris, il y a Burgess Meredith, c'est les débuts de John C. Reilly aussi, acteur très intéressant. Et c'est aussi, parce qu'il commence à se faire plus rare à partir de cette époque-là, une très belle musique de d'Ennio Morricone. Et bon, qu'est-ce que ça raconte, ce film ? C'est l'histoire de Terry Noonan qui revient à Hell's Kitchen, fameux quartier irlandais, le quartier le plus mal famé de New York. Les fans de comics savent bien comment Frank Miller a utilisé ce quartier dans Daredevil, pour le prononcer à l'anglaise, ou Daredevil, quoi, pour le prononcer à la française, quoi. Et il revient après 12 ans dans ce quartier. C'est réputé pour être le pire quartier de New York, en fait, hein, le plus mal famé. Ben, il retrouve Jackie Flannery, son ami d'enfance, qui l'introduit donc dans la bande de son frère Frankie. Il y a également la belle Kathleen, son premier amour, qui n'a que mépris pour les combines de ses frères, et en cheville depuis quelque temps avec un redoutable mafioso, Frankie exerce un racket sur tout le quartier. Oui, mais voilà, Terry, il est devenu policier. D'ailleurs, c'est pas faux, parce que souvent, ça, c'est une dualité qu'on retrouve dans plein de familles irlandaises. C'est une figure un peu classique du polar. Ce que tous ignorent. Et il a pour mission de piéger la bande de Frankie, donc la bande de son propre frère. On est carrément dans de la tragédie, quoi, voilà. Mais très rapidement, le jeune homme se retrouve partagé entre son devoir et ses racines. Et on ne peut pas voir ce film. Ce film, quand même, sort en même temps que la même année que Miller's Crossing des frères Cohen, que Les Affranchis de Scorsese et que King of New York d'Abel Ferrara. Enfin, des films extraordinaires. Voilà. Et ben, il leur tient la dragée haute. Enfin, je veux dire, c'est un super film. C'est vraiment un film excellent, dans une ambiance très particulière. On avait de quoi être inquiet. Hein. Phil Johannou vient de l'école du clip. C'est lui qui a fait le Rattle and Hum, ce film un peu arty, où il filme les pérégrinations de U2. Vous savez, ce groupe qui essaie de nous faire croire qu'il est un groupe de rock. Et donc, c'est vraiment un film extraordinaire. Le scénario est de Dennis McIntyre, qui meurt pendant qu'il fait le scénario. Et le scénario est repris par David Rabe, qui est un ami intime de Sean Penn et qui est le scénariste d'Outrage. Alors, excusez du peu, c'est quand même pas n'importe quoi. Un excellent film de guerre de Brian De Palma. Et on ne peut pas croire, en voyant ce film, que Avant de faire la nuit nous appartient, ce ne soit pas un des films de chevet de James Gray. Quoi. Voilà. Parce que We on the Night a des thématiques qui rappellent énormément le film de Johannou. Alors c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un film totalement des années 90, dans ses couleurs, dans ses teintes, dans sa plastique, dans la représentation de la violence. Et pourtant c'est un film noir typique des années 40-50 également. On retrouve cette alliance qu'on avait déjà dans Blade Runner par exemple de Ridley Scott, où on a un film à la fois avant-gardiste et à la fois empreint de classicisme. Et surtout, c'est l'un des derniers témoignages de ce qu'est la ville de New York avant le nettoyage de Rudolph Giuliani, puisque Giuliani arrive aux commandes en 1994. Alors, évidemment, c'est une tragédie. Évidemment, ça va crescendo jusqu'à un final déchirant. Évidemment, c'est un film beaucoup noyé dans des teintes bleutées. C'est un film très sombre, très obscur. Évidemment, Sean Penn est extraordinaire. Gary Oldman aussi. Enfin, voilà. Évidemment, il y a cet aspect psychologique. Et puis, si mon ami Christophe Cousin était là, il vous le dirait, c'est aussi un western, puisque duel fratricide avec gunfight quand même. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un grand film parce que, tout de suite, l'aspect tragédie, l'aspect shakespearien du film lui confère autre chose. Et j'avais le souvenir d'un bon polar, mais moi, je l'ai vu quand c'est sorti. C'est-à-dire, je l'ai vu en même temps que tous les films que je vous ai cités. Et à l'époque, c'est vrai que King of New York et Les Affranchis m'avaient beaucoup plus marqué que celui-ci. Il faut dire que c'était une grande année. Hein. Faut reconnaître que quand on a tous ces films-là qui sortent en même temps. Et aussi bien Miller's Crossing m'avait paru un peu bavard. Et Ces Anges de la Nuit m'avait paru bien, mais pas non plus génial. Et en fin de compte, en le revoyant aujourd'hui, le film est en fait vraiment excellent. Quoi. Enfin, c'est vraiment un excellent film. Pour moi, c'est son meilleur film, dans tout ce qu'il a fait. Après, petit à petit, sa carrière s'est un peu étiolée. Et puis, sa carrière ressemble pas mal, en fait, à la carrière d'un... Bien sûr, il n'est pas australien, mais à la carrière d'un Russell Mulcahy. C'est-à-dire très prometteur au début, puis petit à petit, ça s'est... parce que je fais une comparaison avec Mulcahy, vu qu'il vient du clip vidéo aussi. Et petit à petit, ça s'est étiolé. Mais en tout cas, les Anges de la Nuit, en plus, l'édition est superbe. Donc je vous conseille vivement de revoir cet excellent polar. C'est vraiment un grand moment de cinéma et à réévaluer, voire à découvrir, puisque le film, visiblement, est un peu méconnu et il mérite totalement d'être découvert.
Signorina, non siate crudele, son commosso, sono scosso, non rifiuti quei pochi minuti che di gioia mi può dare l'amo. Cicche cicche bravo, cicche cicche tanto, cicche cicche quella, cicche cicche bella, cicche cicche cosa, cicche cicche rosa, cicche cicche che ben sa. Ah, che notte, chi può dir le lotte, sostenute, ripetute, ma quel gioco che non duro poco, i ginocchi mi piegò, venga, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche stringa, cicche cicche farza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giunti al fin. Voi signore che bramate amore, non fiaccate, non sfiancate, chi va piano va molto lontano e non chiedete troppi bis, venga!
stringa, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche stringa, cicche cicche forza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giù.
Ecco qua, gli amici, si squadra in bocca, voi lì.
No, no, oggi no, non mi sta bene, prendo un tè.
Les éditeurs vidéo semblent s'être décidés pour enfin remettre à sa juste place un cinéaste un peu oublié. Il fait partie, pour moi, avec Elio Petri, des grands oubliés du cinéma italien qui sont aujourd'hui enfin, qui commencent vraiment à être réhabilités. Je veux bien sûr parler de Mauro Bolognini, qui est un cinéaste, alors tenez-vous bien quand même, auquel on reprochait en France assez régulièrement d'être un cinéaste trop maniéré, trop esthétique, avec une mise en scène trop soignée. C'est assez étonnant, quand même. Voilà, c'est quelque chose qui revenait fréquemment. Et c'est un cinéaste qu'on a un peu oublié, qui est très mal servi hein, par les sorties en France. On peut voir très peu de choses de lui, en fait, hein, en réfléchissant bien, qui a commencé à être réhabilité par la télévision, quelqu'un comme Patrick Brion dans son cinéma de minuit, hein, et qui est un cinéaste qui mérite effectivement qu'on se penche sur son travail. Alors, il y a deux éditeurs qui ont décidé de rendre hommage à Bolognini. Alors, Carlotta, en fait, c'est une ressortie, hein, Carlotta, en coffret de films qu'ils avaient sortis il y a quelques années. C'est un coffret qui regroupe, alors j'ai envie de dire, presque 5 films. Le cinquième film étant un documentaire qui s'appelle Mauro Bolognini, Au-delà du style. Un film inédit de Richard Francis, Jean Gilly et Philippe Jamon. Et Jean Gilly, c'est quand même la référence en matière de cinéma italien. C'est l'auteur, aux éditions La Martinière, du livre Le cinéma italien. Et c'est vraiment le livre de référence. Même si, moi, à mon goût, l'amateur de bis italien regrette que, justement, le cinéma plus populaire, le cinéma plus bis, soit un peu mis de côté dans ces livres-là. Je voue un respect immense à Jean Gilly parce qu'effectivement, il a effectué un travail sur le cinéma italien depuis de nombreuses années. Et il fait partie de ces gens, justement, qui permettent de réhabiliter aujourd'hui Elio Petri et Mauro Bolognini. Elio Petri, que je situe moi un poil au-dessus de Bolognini, j'aime un peu plus Petri. Petri, c'est vraiment un metteur en scène que c'est un de mes metteurs en scène vraiment préférés dans les metteurs en scène italiens de cette époque-là. Voilà. Mais Bolognini, c'est quand même un sacré metteur en scène. Et le coffret que Carlotta propose, en plus de ce documentaire, nous permet, comment dire, découvrir le Bolognini sur à la fois une progression de carrière et surtout découvrir aussi son travail avec un autre débutant qui est Pier Paolo Pasolini au scénario. Et Les Garçons, par exemple, c'est un scénario de Pier Paolo Pasolini. Alors, comme tous les films de l'époque, toutes les coproductions, voilà, les Garçons, c'est un, comment dire, c'est un film de 1959. Le reste du coffret propose des films beaucoup plus tardifs, parce qu'il y a Boubou de Montparnasse, 1971, Liberté, mon amour, de 75, Vertige également de 75, savoureux, Vertige d'ailleurs. Et puis après, il y a l'éditeur Rimini, qui lui propose, alors là, pour le coup, un objet filmique non identifié, un film à la croisée du film social, du giallo, du film d'horreur, qui s'appelle Black Journal. Voilà. On en parlera après avoir évoqué le coffret Carlotta, puis après avoir un peu discuté sur Bolognini, quand même un cinéaste fascinant. Cinéaste fascinant, pourquoi? Parce que c'est un cinéaste qui... Ouais, c'est ça qui me passionne, en fait, avec ces cinéastes-là. C'est un cinéaste à la fois populaire... Mais à la fois, c'est du cinéma d'auteur aussi. C'est-à-dire qu'effectivement... Mais pourtant, c'est du cinéma populaire aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le cinéma qui a pour but d'être vu par un maximum de monde et qui raconte des histoires qui sont rattachées totalement au cinéma de genre. Les Garçons, c'est un film qui raconte l'errance d'une bande de loustiques, quoi, on va dire, de sales types, quoi, une bande de jeunes, avec dont, entre autres, Jean-Claude Brialy et... Jean-Claude Brialy, dont je ne dirai jamais assez à quel point je trouve que c'est un acteur un peu oublié, un superbe acteur, voilà. Laurent Terzieff aussi, entre autres, qui vont être amenés à croiser toute une faune noctambule en Italie, à faire des rapines, à essayer d'arnaquer des gens, des types assez détestables en fin de compte, qui vont manipuler aussi des prostituées Parce qu'il y a une récurrence dans le cinéma de Bolognini, c'est que les femmes sont souvent des prostituées, et puis les femmes sont clairement des victimes de la société dans le cinéma de Bolognini. Et les hommes sont souvent d'infects personnages quand même. Hein. Le souteneur, le boubou de Montparnasse, là, il est ignoble, quoi. Hein. C'est un sale type qui condamne quasiment ses filles à la syphilis, quoi, puisque c'est quelque chose qui est très, très présent dans le film. Et on retrouve donc chez Bolognini, je vous dis, cet attachement à un cinéma populaire, parce que Les Garçons, c'est un film de bande, quoi. C'est un genre qui était très en vogue hein, dans les années 50. Boubou de Montparnasse, c'est un film qui s'inscrit dans la grande tradition du roman populaire, façon Nana d'Émile Zola, sur le destiné, comme ça, la destinée d'une prostituée, d'une fille de petite vertu. Liberté, mon amour, c'est sur l'engagement politique. C'est d'ailleurs un des plus beaux rôles de Claudia Cardinale. Et puis, Vertige. Alors, Vertige, on est à la limite du cinéma fantastique, hein, puisqu'on est même dedans, quoi. C'est-à-dire que Mastroianni est tout bib dans un asile et il est persuadé qu'il peut soigner la folie en extrayant la folie, en fait, du cerveau. Enfin, voilà, il est assez... Lui-même est un fou parmi les fous, en fait. C'est assez chouette. Et puis bon, bah, c'est Mastroianni, quoi. Voilà. La classe incarnée. Et puis, il y a ce film dont on parlera aussi après, Black Journal, avec Shelley Winters, qui s'inspire d'une histoire vraie, puisque d'une femme qui a tué trois autres femmes pour les transformer à la fois en savon et en gâteau. Oui, ce qui est vrai, voilà. Et c'est une histoire bien sordide, quand même. Hein, c'est quand même une histoire vraie. Enfin, on y reviendra après, parce que moi, j'aime bien ces cinq films. Ils permettent de cerner vraiment... toute la palette du cinéma de Bolognini, parce que, alors limite, il en manque peut-être une, c'est l'érotisme, mais je crois que toi, Damien, tu voulais nous parler aussi d'un autre film de Bolognini que tu as vu et qui est, lui, clairement plus un film porté sur l'érotisme. Là aussi, on est dans le cinéma de genre, tout en n'y étant pas vraiment.
La Dame aux Camélias de Bolognini, en effet, est un film assez particulier, enfin... qui aborde un des thèmes de sa filmographie. Donc, c'est un film sorti dans les années 1981, qui est l'adaptation du roman de Alexandre Dumas, fils, cette fois. Là où le roman masque ses personnages en leur donnant des noms qui ne sont pas les vrais, le film les démasque en mettant en avant tout le côté biographie du fils de Dumas. Donc, qu'est-ce que montre le film ? Eh bien, il débute par une pièce de théâtre que Dumas est en train de monter, qui est l'élément déclencheur du flashback qui va nous parler de la vie de Marie Duplessis, une jeune femme partie de la misère la plus totale, qui a réussi à monter les échelons vers sa vie de courtisane. Et elle aura notamment pour amant Alexandre Dumas, fils. Elle meurt tragiquement atteinte de la tuberculose. Et ce que le film nous propose, c'est finalement d'aborder toute sa vie mouvementée. Dans ce film, la sexualité est très mise en avant. C'est à la fois un élément qui l'a défini, vu qu'il y a la question du désir et la façon dont elle utilise sa sexualité pour finalement obtenir du pouvoir. Mais il y a aussi une certaine distance, parce que pour elle, au final, c'est pas grand-chose et c'est un moyen utile d'avoir des choses assez simples. Et comme tu le disais, il y a tout un rapport côté femme-victime, parce que son... père, et là je fais des guillemets et des doigts, a une relation assez particulière avec elle, et c'est lui qui va commencer à la présenter à des hommes où, pour pas grand chose, les hommes peuvent payer et la voir se déshabiller, ou une autre personne plus riche qui va finalement lui donner de l'argent durant une partie de sa vie. Autre ces aspects-là des hommes, enfin de elle, un peu mis dans une position assez fragile, mais qui arrive quand même à obtenir ce qu'elle veut, et les hommes qui l'entourent qui sont... pas très recommandable. Il y a aussi toute une histoire de romantisme mis en avant par Alexandre Dumas fils. Toute cette idée d'amour perdu, finalement, qui rend la fin plus triste que sombre, alors que vu le parcours de la femme, on pourrait s'attendre à un truc vraiment sinistre. On a plus la tristesse, au final, de Dumas qui nous est retransmis. Et je pense que c'est quelque chose que l'adaptation réussit à faire très bien retranscrire dans son œuvre, ce qui est assez... incroyable. Au final, je trouve qu'on a quand même une réalisation classique pour le film, même si je suis assez surpris par certains découpages et certaines scènes qui donnent notamment un suicide qui apparaît d'un coup. Et en fait, je me demande si le réalisateur lui-même n'a pas une certaine force dans le découpage de ces scènes à la fois entre génie et parfois entre brutal, mais pour ça, il faudrait comparer avec ses autres films. N'est-ce pas, Jérôme ?
Après, Bolognini, c'est vrai que c'est un grand metteur en scène, c'est un grand formaliste. Hein. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on lui a reproché. On lui a beaucoup reproché de faire passer la forme avant les sentiments. C'est-à-dire que on lui a beaucoup reproché, la critique française, en tout cas, lui a beaucoup reproché de mettre en scène des personnages peu attachants. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'attache beaucoup aux figures féminines dans son cinéma, mais on s'attache assez peu aux figures masculines. Et si on prend, par exemple, Les Garçons, hein, le premier film dont je parlais tout à l'heure, il y a plein de femmes, en fait, dans le film, qui jouent, alors bien sûr, c'est des filles faciles ou des prostituées. Alors, il y a que dans le cinéma hein, qu'on rencontre des prostituées aussi belles que Rosanna Schiaffino, qu'Elsa Martinelli. Et il y a aussi Mylène de Mongeau, qui a une scène assez osée pour un film de 1959, à un moment où Laurent Terzieff la découvre dans le lit, nue, et il enlève les draps pour la regarder. Elle se réveille, elle le voit, et en fait, pour regarder son corps nu, elle le voit, elle semble à peine surprise. Enfin, voilà, limite, le personnage de Laurent Terzieff n'est pas le plus antipathique, d'ailleurs, mais il y a dans cette bande de garçons, ces garçons qui se croient, cette petite criminalité. Alors, on sent bien la patte de Pasolini, puisque c'est celle d'Acatone aussi. Hein. Acatone est l'un des premiers Pasolini. On sent bien cette chronique de la petite criminalité, mais c'est cette description d'un certain lumpen prolétariat. Parce qu'en fin de compte, c'est des pauvres gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir au quotidien. Donc ils sont vraiment à la recherche de toute rapine pour pouvoir trouver du fric pour manger. Mais ils sont infects. C'est-à-dire que Bolognini leur accorde aucune circonstance atténuante, sauf, je dis, un peu le personnage de Laurent Terzieff, mais surtout les personnages féminins. Et c'est aussi un cinéaste, Bolognini, effectivement, je suis assez d'accord, qui a une esthétique très léchée, très travaillée, une grande science du découpage, qui est capable de faire de films très longs, mais volontairement, hein, ou des longs plans séquences, mais aussi qui est capable de faire des mouvements de caméra très ambitieux, mais sa mise en scène, elle est quand même, pour moi, beaucoup plus axée, on le voit sur Boubou de Montparnasse aussi, hein, énormément, sur un peu des compositions de tableaux, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque plan est un peu un tableau. Je pense que c'est un féru d'art, quoi, et de peinture en général. Je pense que beaucoup d'Italiens, d'ailleurs, pour avoir rencontré beaucoup de réalisateurs, même des réalisateurs de films dits bis, ont quand même une énorme... Je pense que c'est dans la culture italienne, la peinture, c'est très important, je pense.
C'est évident dans Boubou de Montparnasse, hein, les prostituées qu'il décrit, elles sont toutes habillées en couleurs. Elles ont toutes des couleurs très, très, très flashy. Ça m'évoque beaucoup Toulouse-Lautrec. Le Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, etc. Les tableaux de Toulouse-Lautrec qui aimaient aussi les prostituées. Hein. Et les hommes, dans Boubou de Montparnasse, ils sont tous habillés de façon très classique. Gris, noir, blanc, ils sont tous très tristes. Et à l'exception peut-être d'un, c'est tous des salauds. Quoi. Enfin, Boubou, il est infect. Hein. C'est un personnage qu'on voit peu, en fait. On voit surtout Bertha. Hein, une très, très, très jolie femme qui se fait manipuler par lui parce qu'elle l'aime. On se demande bien pourquoi elle l'aime d'ailleurs, tellement c'est une ordure. Il veut plus travailler du jour au lendemain. Et tout ce qu'il veut faire, c'est rien foutre de la journée, puis envoyer sa femme faire le tapin pour qu'elle ramène de l'argent. C'est quand même... Enfin, ça me dépasse, mais bon. Et il y a cette façon, cette direction de la photographie qui est aussi assez particulière, qui est parfois un peu surex, avec des couleurs automnales. Hein. On a vraiment l'impression que le film a été tourné en automne ou en hiver. Et il y a ces couleurs automnales qui se reflètent sur les cheveux des prostituées qui sont souvent roux ou blonds ou auburn. Donc ça fait des reflets un peu surex. C'est un directeur de la photo qui a bossé avec Fellini, Luigi Comencini. Ennio Guarnieri s'appelle.
C'est ça.
Et j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Boubou de Montparnasse. C'est un film c'est le film de Bolognini qui m'a le plus marqué dans tous ceux que j'ai vus, quoi. Mais il y a aussi, y en a un qui est pas dans le coffret, qui, je crois que c'est le plus célèbre de Bolognini, c'est Le Bel Antonio. Et là, il prend un peu le contrepoint au niveau du point de vue par rapport à la critique du machisme. Là, il prend la critique du machisme de l'intérieur, c'est-à-dire Le Bel Antonio, c'est un homme qui tombe les femmes. Enfin, les femmes sont toutes amoureuses de lui. Et il se marie, je crois. Hein. À un moment, il se marie. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il y a une critique du machisme, du virilisme, par rapport aux apparences, par rapport au macho italien, etc., qui est là. Et là, il prend un peu le contre-pied parce que Boubou de Montparnasse, c'est le point de vue de la femme. Hein, le personnage, on le voit vraiment très peu. On doit le voir 20 minutes dans tout le film qui fait presque 1h40. Quoi. Mais ce personnage, Boubou, qui est donc le titre du film, il est là. Même quand il n'est pas dans le cadre, il l'écrase. Il est présent. C'est comme une sorte de dieu maléfique qui est toujours présent, qui manipule cette femme, même lui quand il est loin, en prison, etc. Ou même qu'elle croit qu'elle ne le verra plus jamais. Il revient tout d'un coup dans le cadre, dans l'histoire. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
Après, c'est un cinéaste très particulier. Il est beaucoup question de sexe dans le cinéma de Bolognini. Il est beaucoup question de sexe, mais dans le sens où le sexe mène le monde. Quoi. C'est-à-dire, et il sert aussi de moyen d'asservissement. Enfin, il y a toute une réflexion autour du sexe et autour de la politique. Et quelque chose qui est présent dans vraiment quasiment tous ces films. Quoi. Le sexe est vraiment un élément important, sans forcément qu'il montrait des scènes de sexe, hein, mais ça fait vraiment partie, c'est central dans quasiment tous ces films. Hein,
C'est pas étonnant alors qu'il a travaillé avec Pasolini.
Ouais, mais alors à l'époque c'est marrant parce que tu vois, quand il travaille avec Pasolini, ce qui est marrant c'est que Pasolini c'est un quasi inconnu. C'est son premier scénario, et que lui, Bolognini, c'est un type qui n'a réalisé que des comédies ineptes dont il n'est pas fier du tout. Et il se dit, c'est peut-être l'opportunité pour lui de faire enfin un cinéma plus personnel. Et en fait, les deux, c'est une rencontre, mais je pense plus liée au hasard de l'industrie du cinéma italien.
Parce que le sexe chez Pasolini, c'est essentiel.
Oui.
En tant que objet d'asservissement, de pouvoir, comme dans Salo, ou alors comme pour l'épanouissement individuel et personnel, comme dans la fameuse trilogie de Pasolini, la trilogie du plaisir, il me semble que c'est le titre, où il met en avant le fait que le sexe est le moyen d'épanouissement, c'est le sexe joyeux, c'est le sexe rigolo, c'est le sexe tel qu'il était mis en scène dans le cinéma pornographique des années 70-80 en France.
Il n'est pas toujours drôle, hein, le sexe, par contre, chez Bolognini, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est deux cinéastes très proches. Et Bolognini est un meilleur formaliste, mais thématiquement, je trouve que Pasolini est plus puissant, quoi, parce qu'il va plus loin. Quoi. C'est, voilà. Mais c'est deux cinéastes très proches. Hein. C'est vraiment... c'est un formaliste incroyable. Et un peu, ce lien sexe-sensualité et comment dire, politique, on le retrouve dans Liberté, mon amour, qui raconte l'histoire de Libera, qui est la fille d'un anarchiste exilé. Et ça se passe à Rome, c'est dans les années 30. Elle ne supporte pas le fascisme et quitte à mettre en péril l'atelier de son mari qui est tailleur. D'ailleurs, son mari qui l'aime vraiment, qui n'est pas un salaud, contrairement à beaucoup d'hommes chez Bolognini. Elle le gonfle, elle le fatigue avec tous ses combats politiques, elle met en péril leur vie de couple, tout ça et tout. Mais il l'aime vraiment. Et un 1er mai, Libera, qui est quand même joué par Claudia Cardinal. Bon, on va pas revenir sur le talent de Claudia Cardinal et son immense beauté. À l'époque, elle est au summum de sa beauté. Elle est accusée de provocation par les forces de l'ordre parce qu'elle s'est habillée en rouge avec ses deux enfants. Voilà, le 1er mai. Et donc, du coup, ils sont tous obligés de partir vivre en province. Mais évidemment, Libera ou Liberté, en fait, hein, si on traduit en français, elle est toujours antifasciste, arrivée en province, et là, c'est encore le bordel, quoi. Voilà. Et c'est un très beau film. C'est un très beau film, et c'est un film qui vient en réaction. À l'époque, il y a une résurgence pendant les années de plomb, parce qu'on parle toujours des années de plomb, on parle toujours des Brigades Rouges. Voilà. On parle toujours des Brigades Rouges, on parle toujours du terrorisme d'extrême-gauche. Mais on oublie, et ce que ces grands intellectuels-là n'oublient pas, c'est-à-dire que s'il y a terrorisme d'extrême-gauche à l'époque en Italie, c'est que l'extrême-droite... Il y a un terrorisme d'extrême droite et qu'en fait, le terrorisme d'extrême gauche, il naît en réponse au terrorisme d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose, historiquement, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que historiquement, on nous rebat toujours les oreilles. Alors, évidemment, faire sauter des bombes, tuer des gens, kidnapper des gens, effectivement terrible. Ce qu'ils ont fait à Aldo Moro, les Brigades Rouges, c'est terrible. Voilà. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent une vision partielle de l'histoire qui est donnée, et que si Brigade Rouge il y a, c'est parce qu'il y a un terrorisme d'extrême droite. Et il y a beaucoup à l'époque de réalisateurs qui s'inquiètent de cette résurgence de l'extrême droite, et donc on va voir Ettore Scola qui va le faire « Nous nous sommes tant aimés », on va surtout avoir Bertolucci qui va faire 1900, hein, qui est un film extraordinaire. bon, qui n'est pas celui que je trouve le mieux. Moi, je trouve que le plus grand film de Bertolucci, c'est Le Conformiste. Voilà. Qui traite d'ailleurs aussi, c'est pareil, de sexe et de fascisme. C'est très, très intéressant. Et ce film-là s'inscrit là-dedans parce qu'en fait, dans ce film-là, il n'y a aucune facilité, aucun manichéisme. C'est-à-dire que tous les personnages sont montrés sous leur bon, mais aussi sous leur mauvais côté. Et on peut le dire, je pense que c'est l'une des deux ou trois meilleures performances de Claudia Cardinale. Elle est superbe dans le film. On va aller un peu plus vite pour parler aussi du... Parce que Bolognini a différentes activités. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du quatrième film du coffret, Vertige. Et il est à peu près à la même époque que le film précédent. Ça se passe pendant la montée du fascisme. Et c'est l'histoire du professeur Bonaccorsi, donc, qui est Marcello Mastroianni, et qui bosse dans un asile, un psychiatrique, en Toscane, coupé du monde. Et lui, il pense que... c'est une métaphore du fascisme. Hein. Il pense que la folie... C'est quelque chose c'est une maladie qui contamine les gens et qu'on peut donc la guérir, évidemment. Et donc, pour tenter de trouver le germe de la folie, il conduit des recherches et il va être confronté à une jeune doctoresse qui, elle, est plus branchée psychanalyse et elle s'oppose à ses théories, en fait. Et elle découvre en plus que ce professeur, bah oui, parce qu'il est toujours question de sexe chez Bolognini, entretient des relations libertines avec toutes les femmes, entre guillemets, scène de l'hôpital. Voilà. Donc, et ça donne un film vraiment assez, assez extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film sur la contamination par le mal. Quoi. C'est-à-dire, cet asile, c'est l'Italie, quoi. Et cet asile, c'est l'Italie. Ce professeur qui veut isoler un germe, c'est un peu... Il part d'une bonne intention, mais en même temps, c'est de l'eugénisme. Derrière, il y a cette femme qui va s'opposer à lui. Hein, qui, elle, évidemment, c'est la voix de la raison. C'est Freud. C'est celle qui doute. C'est celle qui n'a pas de certitude. Et c'est celle qui trouve que ce professeur n'a pas un comportement normal et que c'est un fou parmi les fous. Et c'est une métaphore sur l'Italie qui est rongée par le fascisme. Et c'est aussi un film qu'on peut mettre en lien, parce que c'est un film qui parle de la folie, avec Black Journal. Black Journal, autre film de Mauro Bolognini, là, ce coup-ci qui est édité chez Rimini, pas chez Carlotta, et qui est vraiment... un grand film sur la folie, quoi. Et qui est un film fou aussi.
Un film sur la folie et sur, quelque part, sur l'intégrisme religieux, parce que ce personnage incarné par Shelley Winters, c'est un peu une folle de Dieu, quand même, quelque part, hein, parce que elle tue des bonnes femmes parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà.
Il faut préciser aussi qu'elle a perdu plus d'une dizaine d'enfants, oui, à cause de fausses couches, d'enfants morts en bas âge et tout ça, et qu'elle n'a plus qu'un fils qu'elle vénère d'ailleurs comme une relation limite incestueuse.
Elle surprotège son fils, alors quand son fils va voir Laura Antonelli, alors là, forcément, elle la voit d'un mauvais œil. Hein, et bon, donc... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle tue ces femmes. Bon, le film est très drôle. Hein. Donc elle décide de tuer trois femmes et d'en faire du savon et des gâteaux.
Le gâteau, c'est avec les os concassés.
Le gâteau, ouais, c'est avec les os concassés. C'est du phosphore, ça rend intelligent.
Ah oui, c'est vrai, ça phosphore. Et parce qu'elle a une pauvre femme de ménage qu'elle exploite abusivement, on ne sait pas si elle est un peu fragile psychologiquement, mais en tout cas, elle a une emprise sur elle. Et c'est une femme qui n'est pas vraiment douée de la parole. Elle ne sait pas s'exprimer.
C'est une demeurée, quoi.
Oui, et puis elle a très, très peu de mots de vocabulaire. Mais il y a un truc qu'elle a retenu.
C'est phosphore.
C'est phosphore, quoi. Voilà, quand on dit,
c'est voir le film, c'est très drôle. Et donc, elle décide de tuer trois femmes. Alors, ces trois femmes ont une particularité dans le film. C'est qu'elles sont incarnées par trois hommes, chacune. Alors, c'est un choix de mise en scène particulier. L'un d'eux, c'est Max von Sydow. Et donc, comme tu me l'as fait remarquer hors antenne, Gégé, donc les trois hommes en fait incarnent aussi après trois autres personnages. Moi, j'avais noté Max von Sydow, mais j'avais pas noté les deux autres qui ont un rôle particulier dans la conclusion du film.
Qui vont permettre de la confondre. Hein. Voilà, il faut dire les choses.
Il raconte le film. Moi, je veux pas raconter le film, mais lui il raconte le film.
Mais c'est pas gênant, ça. C'est pas.
Bref. Et à un moment, il y a un plan où on voit ces trois femmes assises sur un divan et c'est à se pisser dessus de rire. Et le film est drôle. C'est une comédie d'horreur, hein, une comédie noire. Hein.
Oui, c'est un film qui joue avec le genre. C'est un film qui joue avec... Alors, le film... Alors moi, c'est un grand film sur la folie. Shelley Winters est génial. Les acteurs sont géniaux. C'est très drôle. Par contre... Ah, les plans sont des tableaux magnifiques, ça c'est pareil, avec une photographie un peu livide mais un peu étrange comme ça, mais très belle. Par contre, bon, moi c'est vrai, par moments j'ai l'impression que Bolognini sait pas trop quoi faire de son scénario, parce qu'il y a, parfois des tunnels un peu où il se passe pas grand chose quand même pendant le film, mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même envie de savoir jusqu'où il va aller.
J'ai pas eu cette impression, parce que justement je me suis demandé, quand, en mettant le film, je me suis dit, ah, quand même ça dure 2 heures, comment il va faire pour tenir 2 heures avec ce sujet là mais moi je me suis pas ennuyé à un moment. Et surtout, bon, c'est drôle, quoi. Il y a aussi un plan où elle mange les biscuits en question. On les voit toutes en train de manger des biscuits, puis le son...
Avec le curé, la soeur du curé, quand même. Ah bah oui, oui.
Le son est travaillé parce qu'on les entend croquer et mâcher les whiskies, ça fait...
Puis... Mange ceci et mon corps. Ah oui.
Et puis donc, elle croque les biscuits, puis on les entend... Et ça dure vachement longtemps, le plan, il est vachement long, et c'est à se pisser dessus de rire, parce que nous, on sait ce que c'est. Elle ne le sait pas. C'est pas dit à un moment, dans le film, quand elle apporte les biscuits. On le devine, quoi, plus qu'autre chose.
En plus, tout le monde adore ces biscuits.
Enfin, tout le monde adore ces biscuits, ils sont super bons, ces biscuits. Ah, mais t'as mis quoi dedans? Oh, j'ai mis de la cannelle et tout. Mais il y a un ingrédient secret qu'elle garde, bien évidemment, secret pour elle. Donc moi, je trouve que c'est un film... vachement bien, et je trouve qu'on retrouve aussi chez Bolognini, et que j'avais aussi remarqué chez, dans Boubou de Montparnasse, une sensualité. D'un moment, il y a Shelley Winters qui va observer Laura Antonelli en train de danser. Et je trouve que c'est un moment très sensuel, et je retrouve cette sensualité aussi dans Boubou de Montparnasse. À un moment, il y a des plans très brefs sur cette actrice-là, qui est une sorte de faux sosie de Linda Blair. Là. Oh.
Ottavia Piccolo, qui est excellente dans le rôle.
Il y a des plans très sensuels sur son corps. C'est très beau. Effectivement, ça se rapproche un peu aussi de tableau de maître, etc. Et il y a une très belle scène de danse, très courte, trop courte à mon goût, où Shelley Winters observe Laura Antonelli en train de danser. Ah. Bon, moi, c'est un film qui a emporté mon adhésion. Hein. La première fois que j'avais vu, bon, c'était dans une copie VHS, pas terrible, avec une image floue. J'avais pas super aimé, mais là, en plus, chaque plan est superbe, quoi. Chaque plan est composé.
La copie est superbe. Ouais. La copie est vraiment très belle. Voilà. Et bon, pour moi, Laura Antonelli, c'est une des plus belles femmes du monde de tous les temps. Hein. C'est une des plus belles actrices de l'histoire du cinéma, je la trouve sublime.
C'est sûr qu'elle est plus belle que Max von Sydow qui montre son dos.
Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle à un moment. Parce que ces femmes ont un côté frivole, sont interprétées par des hommes, et c'est interprété sans... C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des voix féminines particulièrement, ils ne prennent pas... ils surjouent un peu la femme, mais il n'y a pas le côté Renato, grande folle, Hugo Tognazzi, la cage aux folles, quoi. C'est vraiment... elles jouent comme si elles étaient des femmes, quoi. Et il y a un moment, effectivement, Max von Sydow, quand on connaît en plus son physique un peu longiligne comme ça, et ils regardent tous une autre femme, et puis lui, il dit qu'il s'est fait sexy. Enfin, elle dit qu'elle s'est fait sexy, quoi. Elle se retourne et il a un dos nu, alors effectivement, qui est très sexy. Bon, porté par Max von Sydow, c'est moins sexy, mais...
Avec une fleur dans la descente de rein.
Ouais, oui, non, c'est drôle, quoi. Voilà, c'est très drôle. Et alors, effectivement... Du coup, ça donne un aspect aussi fantastique au film. Et c'est un film aussi qui joue avec les codes du cinéma d'horreur, qui joue avec les codes du giallo, en choisissant de pastiliser les meurtres, en choisissant des textures d'images et des coloris différents du thriller et du polar italien. On est dans l'époque de la fin de l'âge d'or du giallo. Enfin, c'est même fini, l'âge d'or du giallo. C'est terminé. Parce que le film, pour les Italiens, c'est un giallo, vu qu'il y a meurtre et tout ça. Tu sais, les Italiens, eux, ce qu'on appelle giallo en France n'est pas ce qu'ils appellent eux giallo. Eux, dès qu'il y a meurtre et enquête, il y a giallo, quoi. Et peu importe si c'est à l'arme blanche ou pas. Mais quand même, en plus, les meurtres et tout sont assez sordides, parce qu'elle a tout un arsenal d'outils de cuisine et tout. Ah, puis il y a un moment, une scène aussi qui est hilarante, c'est-à-dire on a un personnage, je ne dis pas lequel, on ne sait pas si elle va la tuer ou pas la tuer, elle prend le hachoir, et là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait avec le hachoir? Bah, juste, elle coupe des parts de gâteau, et le hachoir, il est énorme, et le gâteau est tout petit, quoi. Donc, t'es mort de rire, mais t'es... Voilà, il y a plein de moments comme ça. Puis Shelley Winters tient bien son personnage, quoi. Voilà, elle le fait très bien. Et effectivement... Comme dans tous les films, même si là il n'est pas très aimable à l'égard des femmes, mais effectivement, comme dans tous les films de Bolognini, il y a cette critique du poids des institutions, du poids de la religion.
La religion, voilà, la religion, elle est clairement
de la religion et de la société. Parce que c'est-à-dire que quand elle arrive au début dans cet immeuble, elle se dit, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle arrive dans une nouvelle maison, une superbe maison, mais que c'est en fait une maison, son mari, il a une promotion, ils sont mutés, on comprend que ça ne lui fait pas très plaisir de venir habiter là où elle va habiter, et mais la maison est superbe, alors elle dit c'est fonctionnel, toutes les pièces sont immenses, en fait, elle est très bien installée, quoi. Bon, il lui explique qu'il a pris un crédit, tout ça, enfin, il y a tout le côté social qui est là, et au moment où il lui explique qu'il a pris un crédit, tout ça, et que désormais ils ont cette grande maison et tout, et qu'il a une promotion, paf, il nous fait une sorte d'AVC. Mais en plein au moment où il lui dit ça, et du coup après c'est un légume jusqu'à la fin du film, et il observe.
Lui, il comprend tout.
Et lui il comprend tout ce qui se passe, mais il peut rien dire parce qu'il n'arrive plus à s'exprimer. Il est terrorisé par sa femme, et en même temps, on comprend aussi que elle subit un déclassement puisque ils sont plus riches du coup. Parce que lui il a plus son boulot, il a sa maladie, vendre des savons, ça fait partie de ses sources de revenus, quoi. Alors, faut pas qu'elle oublie une bague dans le savon, parce que ça peut être traumatisant pour la personne qui se savonne avec. Mais voilà, c'est assez. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect politique aussi, l'aspect économique, je veux dire. Mais c'est Bolognini à redécouvrir, vraiment un cinéaste majeur de cette époque. Et on est très content que Rimini, Carlotta et on espère d'autres éditeurs nous fasse redécouvrir cet excellent cinéaste. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté par la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.